Le temps des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Cette semaine, c'est la rentrée. Et pour cette première de la saison, nous nous intéressons évidemment à la rentrée littéraire et à la notion, si tant est qu'elle soit encore pertinente, de roman d'apprentissage. Trois invités avec nous autour de la table, trois invités et trois romans, Maïlys de Kerangal, Emmanuel Bayamaktam et Yves Bichet, qui soient ici les bienvenus. Bonjour Emmanuel Bayamaktam.
Bonjour.
Vous étiez déjà venu ici, mais sous une autre identité, me semble-t-il. C'est secret ou faut
non,
pas
non,
le dire?
Non, non, il n'y a pas d'omerta, j'ai une double casquette.
Voilà.
Je m'appelle aussi Rebecca Ligieri.
Voilà, vous étiez venu pour Les Garçons de l'été.
Oui.
Qui parlait de surf et d'une famille.
Voilà, et quand je suis Rebecca Ligieri, j'écris des romans noirs.
D'accord. Celui-là est un roman vert, ça s'appelle Arcadie.
Voilà, c'est un roman un petit peu rose aussi. Mais
un petit peu rose.
Très noir rose. Aussi. Noir,
très rose.
Vert, rose. Oui, très rose.
Très rose. On en parlera. Mmh. Donc Arcadie, on est à Liberty House. C'est un vieux manoir qui servait de pensionnat pour jeunes filles, mais qui a été métamorphosé par Arcadie, qui est une sorte de gourou en phalanstère contemporain, d'où la technologie, les smartphones notamment, sont bannis pour mieux pratiquer, permet de pratiquer l'amour libre dans une nature absolument envoûtante. Dans cette société, un refuge pour marginaux vit une jeune fille, Farah, une adolescente, pas vraiment belle, dit-elle, mais qui, de façon plus embarrassante, constate l'apparition chez elle d'attributs réservés normalement aux garçons, aux hommes. Et c'est son récit d'apprentissage de la vie, d'apprentissage de son identité, vers l'âge adulte, que vous nous racontez dans un généreux roman. 36 chapitres, au joli titre, Le sermon sur la montagne, Viens t'asseoir sur ma bouche, Au revoir les enfants, ou À quoi bon l'amour. Ça va nous emmener, ce livre, à la rencontre de l'autre sous la forme d'un réfugié, d'un migrant, hein, thème d'actualité, érythréen. Mais tout cela est traité avec un humour absolument corrosif, une crudité aussi parfois, surtout quand vous évoquez le corps, le sexe. Mais crudité, mais aussi haute culture, puisque vous émaillez vos textes de citations cryptées, tirées de Rilke, de Flaubert, d'Emily Dickinson. Vous en donnez la liste à la fin. Est-ce que le titre n'est pas un autre clin d'œil littéraire au cliché virgilien d'une terre bucolique qui serait ancrée dans un âge d'or ?
Tout à fait. Alors, bon, le titre Arcadie, c'est aussi un écho au nom d'Arcadie. Hein, alors, ne dites pas gourou, mais chef spirituel plutôt que gourou.
Message reçu.
Voilà. Et de fait, le titre s'est imposé assez vite parce que j'avais envie de faire revenir Arcadie, qui est un personnage récurrent de mes romans. Et puis, je pensais à deux tableaux de Poussin dans lesquels il y a des bergers en Arcadie avec un crâne. Et cette devise latine est in Arcadia ego, donc qui signifie sans doute la présence de la mort au sein même du paradis. Donc, effectivement, titre polysémique et clin d'œil.
Donc, roman vert, roman noir aussi, avec cette notion de vanité, hein, du temps qui passe, quoi. Memento mori.
Oui, tous mes romans sont noirs, en fait, hein, même quand je m'appelle pas
Emmanuel Bayamaktam. Voilà. Bonjour Maïlys de Kerangal.
Bonjour.
Alors, vous publiez chez Vertical, après Réparer les vivants, Un monde à portée de main, qui fait partie des 10 livres de la rentrée de la sélection France Culture LOPS. C'est le récit initiatique d'une jeune femme, Paula Karst, qui a décidé de se lancer dans l'apprentissage de la peinture décorative. Alors, qu'est-ce que c'est apprendre au sens premier du terme, cette peinture décorative, parce que c'est une peinture qui recouvre les décors de théâtre, de cinéma, qui imite les plus belles matières qui soient, et vous nous régalez avec ces matières, les mille nuances des écailles de tortue, les marbres rouges de Serrefontaine. Vous ne nous épargnez absolument rien non plus de la difficulté de la tâche. Ça vous amuse, Maïlys de Kerangal?
Vous ne nous épargnez
oui,
la difficulté. Oui, bien sûr.
Oui.
Ouais,
non, mais
c'est
la
difficile.
Difficulté, ouais. Exactement. Mmh. Les douleurs aux pieds, c'est des heures debout, ouais. Les yeux qui fatiguent, mmh. Les bras qui tiennent le pinceau. C'est aussi un corps à corps avec la matière qu'il s'agit de raconter.
Oui, il faut qu'elle. C'est comme une initiation. elle se lance dans cette c'est une fille un peu flottante et puis elle découvre cette école, elle est comme happée dans ce monde où il s'agit de recréer les matières du monde, minérales, végétales, animales, et puis de produire de l'illusion. Donc il y a un rapport au merveilleux, à l'éblouissement et puis aussi à la souffrance physique. C'est difficile.
Et puis il y a ce passage merveilleux, on en parlera, de véritablement épiphanique, de la découverte, non pas par elle, puisque ça a été fait bien avant, mais vous ne nous épargnez rien, Élise de Kerr, redécouverte de cette grotte de Lascaux.
C'est vrai que ça a été, c'était là où je voulais arriver, en fait, hein, c'est là où j'avais envie que le livre s'achève, enfin aboutisse en tout cas à l'invention, en fait, parce que ce qui m'intrigue beaucoup, c'est que les découvreurs des grottes, et en tout cas de celle-là, comme de celle de Chauvet, on les appelle des inventeurs, donc je trouve que c'est intéressant sur le...
On invente un trésor.
Voilà, on invente un trésor. Et pour le coup, c'est vrai que là, j'ai eu envie de déplier cette scène de la découverte, de l'invention de Lascaux. Ouais.
D'autant plus que la grotte de Lascaux a droit d'ailleurs à son fac-similé, ce que vous appelez le fac-similé suprême, finalement. Puisqu'elle a été copiée entièrement par ses artistes.
Elle n'a pas cessé d'ailleurs d'être copiée. Il y a quasiment une espèce d'archéologie de ce fac-similé dans le livre. C'est-à-dire qu'il y a eu Lascaux, puis 2, Lascaux 3, Lascaux 4. Enfin, voilà, la grotte produit des images à mesure qu'elle se retire dans une forme d'invisibilité.
Alors, c'est un apprentissage de la vie par le geste aussi que vous nous offrez avec ce livre, donc à travers l'itinéraire de Paula. Mais alors, une petite question quand même, un monde à portée de main sur ce titre. Est-ce que c'est pas la promesse de tous les romans, de nous mettre un monde à portée de main, à portée de Dieu, ceux du lecteur?
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que c'est là, mais c'est vrai que l'idée d'être à portée de main, ça induit qu'il y a un mouvement qu'il faut aller le quérir, que ça se donne pas comme ça. Il y a un geste à produire, il y a un geste à faire.
Un peu comme la Révolution, Yves Bichet. Il y a un geste à produire, il y a beaucoup de gestes à produire. Bonjour.
Bonjour. Il y a beaucoup de gestes à produire, oui. Enfin, des gestes à répéter, peut-être. Voilà. Des gestes de joie, de jubilation, de désinvolture, choses comme ça. De candeur.
Et de violence aussi. Vous revenez en librairie avec 3 enfants du tumulte, qui fait aussi partie, d'ailleurs, de notre sélection, donc les 10 livres de la rentrée de la sélection France Culture et l'Obs. Tous ceux qui vous suivent, Yves Bichet, retrouvent les personnages, un peu ce que vous nous disiez, Emmanuel Bayamaktam, avec Arcadie. Là, ce sont les personnages d'Indociles qu'on retrouve. C'est publié au Mercure de France, 3 enfants du tumulte. C'est un livre qui se passe, c'est pour ça que je parlais de Révolution, en 68, mais qui est très différent des 1001 publications sur mai 68 auxquelles on a eu droit depuis mai dernier. Parce que déjà, ça se passe à Lyon et pas à Paris. Et Lyon a été un endroit extrêmement important, vous allez nous dire, pour les événements de mai, puisque dans la nuit du 24 au 25 mai, il se passe quelque chose qui ne s'était pas encore passé, en fait, pendant la Révolution de mai 68. C'est quoi, Yves Bichet?
Eh ben, c'est le premier mort. Enfin, voilà. C'est la première fois que quelqu'un est tué, soi-disant par des manifestants. C'est le commissaire Lacroix qui est sur un pont. Il y a un camion qui lui fonce dessus, sans conducteur. Et le pouvoir en place se précipite sur cette mort qui est suspecte en réalité, qui ne s'est pas passée comme on a dit qu'elle s'était passée. Se précipite pour tirer un trait sur ce moment de grande désinvolture, de grande joie, de foutraque, un peu d'allégresse. Moi, j'avais 17 ans, donc j'ai connu que l'allégresse.
Mettre un crâne dans l'Arcadie, en fait, c'est ce que disait Emmanuel Bayamaktam tout à l'heure. Dans ce tableau vert, mettre la mort, quoi.
Oui, qui arrive d'un seul coup. Et puis les étudiants, enfin les manifestants qui étaient, au fond, victimes de la police globalement, et considérés comme tels, d'un seul coup, ils deviennent des tueurs. Donc tout bascule. De Gaulle va en Allemagne. Il va y avoir ces grandes manifestations. Et c'est la fin de quelque chose. J'avais envie de rendre hommage aux petites personnes qui ont participé à ces événements, aux gens dont on n'a pas parlé, qui ne sont pas devenus des politiciens ou des gens de presse.
Ou de publicité.
Ou de publicité, exactement. Qui ont bataillé avec cette fin d'un rêve, au fond, qui a bousculé le monde, qui a surpris tout le monde, et dont on oublie qu'il était à ce point allègre, à ce point joyeux.
Alors on retrouve, je disais, les personnages d'Indocile. Alors il y a Théo, l'insoumis, qui refusait dans Indocile le service militaire. On était à l'époque pendant la guerre d'Algérie, après la mort de son meilleur ami Antoine. On retrouve Marianne, la mère d'Antoine, qui est devenue la maîtresse de l'édile local, du maire de Lyon. Et puis Mila, votre fabuleux personnage féminin, qui a été foudroyé par un éclair pendant son enfance, qui est resté aussi rebelle que dans Indocile. Puis le troisième enfant de ce tumulte, c'est Delphine, médecin, qui adore se baigner dans une baignoire transparente, comme est transparente finalement votre intention. Enfin, je trouve dans ce livre, c'est le roman des illusions perdues. C'est beaucoup de tumulte pour rien, quoi.
Pour rien,
pour la mort ou pour la souffrance, au fond.
Voilà. Ben, chacun de mes trois personnages, mes trois enfants, réagit différemment à cette fin de l'allégresse. Et Mila va vers le terrorisme, comme ça s'est souvent passé, et à Lyon en particulier. Il y a une partie d'Action Directe qui a pris naissance à Lyon à la suite de ces événements. Il y a eu beaucoup de victimes, de gens dont on n'a pas parlé, des petites mains qui ont été victimes.
Alors précisément, vous avez dit des gens dont on n'a pas parlé. Et je voudrais vous poser quand même une question à toutes les trois. Je parlais du roman d'apprentissage. Alors évidemment, ce terme de roman d'apprentissage fait écho à ce que les romans appelaient le Bildungsroman, le roman de formation qui voyait un jeune héros comme le Wilhelm Meister de Goethe faire son chemin à travers divers événements et par là même se forger sa conception de la vie. En France, on a eu l'éducation sentimentale, en Angleterre, il y a Jane Eyre, Oliver Twist aussi de Dickens. Est-ce que, bien sûr, vous êtes rassemblés autour de cette notion de roman d'apprentissage et vos héros apprennent des choses de la vie? Est-ce que vous pensez aussi, je repense à ce que disait Yves Bichet là, que le roman aussi est fait pour apprendre des choses au lecteur? Est-ce que le roman est aussi un instrument d'apprentissage? Emmanuel Bayamaktam.
Alors moi, je fuis toute intention didactique quand j'écris. Je pense que le roman est plutôt là pour déstabiliser, déranger, faire désapprendre qu'autre chose. Maintenant, il est évident que, enfin, voilà, nous trois qui sommes ici, nous quatre même, qui sommes d'abord et avant tout des lecteurs, nous avons appris des choses en lisant. Mais que rien de pire que le roman athèse, rien de pire que le roman qui assène des vérités et qui prétend édifier son lecteur.
Mais édifier, il y a une tonalité morale. Ouais. Je parle plus d'enseigner, d'apprendre des choses qu'on ne savait pas, qui peuvent nous permettre de
quoi,
d'être meilleurs. Ah si, tout à fait, mais c'est parfait, bien sûr.
D'accord. Ouais.
Chez Maëlys, il y a le plongeon dans une technique, il y a quand même un apprentissage, là, pour le coup.
Maëlys de Kerangal.
Alors, oui, enfin, moi, je me dis que j'ai probablement noué un rapport au roman qui... J'ai souvent regardé les romans ou ouvert les romans comme étant des lieux par lesquels, des accès par lesquels j'allais quand même connaître le monde et avoir accès à des émotions, à des formes de vie et à des formes de savoir auxquelles ma vie ne me donnait pas accès. Ça, c'est assez fort. Et alors, il ne s'agit pas d'affecter au roman la mission d'apprendre quelque chose à quelqu'un.
C'est ça que je voulais dire, Emmanuel. Hein. C'est la visée morale.
Il n'y a pas de mission. Mais par ailleurs, moi, j'aime que les livres m'entraînent finalement vers d'autres langues, me conduisent vers d'autres mondes. Les autres langues, ça peut être, par exemple, effectivement, les lexiques les lexiques techniques, mais pas que ceux-là, les lexiques des mots oubliés, des mots disparus, etc. Ça, j'aime assez que le roman m'entraîne vers ces langues étrangères. Et ça fonctionne, oui, pour moi, comme des puissances de connaissance. C'est-à-dire, je pense aussi que l'imagination est une puissance de connaissance. Et pour moi, il y a, voilà, ça, le roman, ça regarde pour moi vers cela. Ouais.
Et Yves Bichet, quand vous disiez justement ces petites mains de mai 68 qu'on avait oubliées, ceux qui n'ont pas fait carrière après la Révolution, est-ce qu'il n'y avait pas aussi l'envie, à travers ce livre, vous avez choisi un roman pour ça, de les faire exister, ces gens que la majeure partie de la population française a totalement oubliés, même ne connaît pas, que les jeunes gens d'aujourd'hui ne connaissent pas, les fameux trimards par exemple.
Oui. Moi, j'ai le sentiment que le vrai, maintenant, la question du vrai, elle est partout, hein. Les fake news, etc. J'ai le sentiment de plus en plus que pour accréditer, pour crédibiliser, pour incarner le vrai, il faut passer par la fiction. Il y a que ça. Il y a plus que ça qui rend indiscutable le témoignage ou l'attestation. Donc là, il y a un apprentissage de la vérité, peut-être, à travers le roman. Enfin, c'est une question un peu large, peut-être un peu prétentieuse, lancée pareillement, mais j'ai ce sentiment-là que c'est par le roman, par la fiction, en tout cas, qu'on va redonner une consistance à la vérité.
Pourquoi?
C'est ce que j'ai essayé de faire ça dans mon livre.
Pourquoi? Parce que ça permettrait de remettre de la,
mais
de
parce
la
que,
chair, là,
parce
sur,
que c'est vertigineux.
Noms, ouais.
Parce que d'un seul coup, il y a plus d'autres enjeux que ce vertige du roman. Et le lecteur le sent. Il n'y a pas l'enjeu de démontrer quelque chose, de prendre le dans une radio. Il y a juste un enjeu qui est d'emmener vers des personnages. Ouais. Et donc, du coup, le contexte prend une autre allure, hein, devient véritable. On apprend le vrai, peut-être.
Voilà, on va continuer à en parler avec vous trois. On commence avec vous, Emmanuel Bayamaktam et Arcadie. On écoute d'abord votre choix musical. Vous avez choisi Who's That Chick de Rihanna. That Chick de Rihanna, c'est le choix d'Emmanuel Bayamaktam qui publie Arcadie chez POL. Pourquoi ce choix musical ?
Il y a souvent du Rihanna dans mes livres. Il y a souvent cette chanson d'ailleurs, je suis en train de le réaliser. Alors, en l'occurrence, celle-ci, Who's That Chick, c'était vraiment par rapport aux paroles, hein, plutôt que la mélodie.
Qui est cette fille, cette nana. Voilà.
Parce que elle arrive cette chanson quand mon héroïne Farah est en boîte et se pose beaucoup de questions sur elle. Elle se demande finalement, mais qu'est-ce que je suis, puisque je suis ni fille ni garçon. Et d'ailleurs, elle va chercher la réponse, entre autres, hein, dans les romans. Donc ça, avec un peu de retard, je réponds à votre question de tout à l'heure. Et là, en l'occurrence, elle est en boîte, on balance du Rihanna, et voilà, ça fait vraiment écho à ses préoccupations intimes. Mais qui est cette fille ? Qui suis-je ?
Qui suis-je ? Alors, Arcadie, c'est un roman qui nous emmène à Liberty House. C'est un vieux manoir, ancien pensionnat pour jeunes filles dans le sud de la France, pas très loin de l'Italie, mais qui a été métamorphosé par Arcadie. Alors quand j'ai dit gourou, vous m'avez dit non, c'est un chef spirituel. C'est quoi la différence ?
Bah, gourou, ça a vraiment des connotations très, très négatives. Hein. Il y a l'idée de manipulation, presque de charlatanisme, voire d'abus sexuels sur mineurs. Or, rien de tel dans mon phalanstère. Et Arcadie, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup, que je reprends de livre en livre parce que je l'aime beaucoup. Arcadie, c'est vraiment celui qui aime inconditionnellement et universellement les
toutes formes de vie.
Voilà. Les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes, les beaux, les laids.
Voilà, une sorte d'amour, un Jésus en fait, presque. Une sorte de. Voilà.
Hein ? Non, pas un Jésus, si vous le permettez.
Alors, il a transformé cet ancien pensionnat pour jeunes filles en phalanstère, hein, vous avez prononcé le mot, un phalanstère contemporain, mais d'où toute technologie est bannie, parce qu'il est question de pratiquer l'amour donc assez généreux, hein, vous l'avez dit, dans une nature extrêmement envoûtante, avec une grande liberté. Et dans cette société, il y a cette jeune fille donc, qui écoute Who's That Chick de Rihanna, donc c'est Farah, une adolescente qui n'est pas belle, enfin ne se trouve pas belle. D'ailleurs, Arcadie ne lui dit pas qu'elle est belle, mais qui constate qu'elle est en train, enfin, qu'apparaissent en elle des attributs normalement réservés aux hommes, attributs physiques. Et c'est son récit d'apprentissage de la vie, de son identité que vous nous racontez dans ce roman qui nous emmène aussi, enfin, à la rencontre d'un autre, puisqu'on n'est pas loin de l'Italie, il va être question de migrants et notamment d'un réfugié érythréen, objet aussi du désir et objet de, finalement, de rejet de la part de cette communauté qui pourtant était dominée ou déterminée par la notion d'amour et d'accueil.
Alors je reviens un petit peu sur les métamorphoses que subit le corps de Farah, parce que en fin de compte, non, elle n'est pas vraiment dotée d'attributs masculins, mais disons qu'elle n'a
Elle a des pectoraux, par exemple.
Elle n'a pas d'utérus, elle a une cupule vaginale en lieu et place d'un vagin normal. Elle a tendance à être très musclée et avoir une pilosité exubérante, mais elle est finalement un peu intersexuée.
Androgyne.
Oui.
On dit cupule vaginale, on dit ça.
On dit cupule vaginale, bien sûr.
Vous voyez que les romans apprennent des choses.
C'est bien que je me suis renseignée. Vous voyez ce qu'est une cupule ?
Oui, oui, absolument. Voilà, enfin, mais c'est
imaginez
marrant.
Imaginez une cupule vaginale. Et elle reçoit une éducation finalement assez idéale et très peu genrée, puisqu'on la laisse tranquille grandir dans une zone blanche, donc sans portable ni internet, au contact de la nature. Donc c'est vrai qu'elle grimpe aux arbres, elle a des poules, des chats, elle passe son temps à se vautrer dans l'herbe. Et elle reçoit très peu d'injonctions finalement à être un garçon ou à être une fille. Et du coup, on ne sait pas trop finalement pourquoi, c'est vrai que son corps ne choisit pas entre l'un et l'autre sexe.
Alors, c'est étonnant parce que justement, moi je reviens sur cette question du genre, parce que évidemment c'est un sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est même d'ailleurs présent dans le nouveau livre de Salman Rushdie, en fait, il y a l'un des personnages aussi qui va changer d'identité sexuelle, et ça se passe à New York, donc c'est extrêmement important. Cette héroïne, vous l'androgénéisez, gynéisez, vous la transgenrez. En quoi était-ce important pour vous de traiter cette question-là? On sait que le corps est toujours très très important dans vos livres, mais là il est question de l'entre-deux, quoi, du non-binaire.
Oui, ce qui est le cas de presque tous mes livres. Hein. Depuis le premier livre que j'ai publié aux éditions POL, mes personnages finalement sont très indéterminés quant à leur genre. Donc voilà, je suis pas partie bien en tête en me disant tu vas écrire un roman transgenre, mais de fait, souvent mes personnages sont indéterminé, que ce soit sur le plan ethnique ou sur le plan de leur identité sexuelle. Et finalement, le roman se prête à ce genre de choses, parce que le roman, c'est aussi un genre polymorphe, très plastique, très malléable, et qui peut admettre des personnages complètement, complètement foutraques, comme Farah.
C'est le roman qui est transgenre, en fait. On pourrait, c'est pas un genre, quoi. C'est un transgenre, le roman, Maëlys de Kerangal.
On dit parfois que le roman, c'est tout ce que les autres genres ne sont pas. C'est-à-dire que ce qui n'est pas du théâtre, ce qui n'est pas de la poésie, ce qui n'est pas de la chronique, voilà. C'est vrai que c'est un mauvais genre, au sens d'un beau gosse qui aurait mauvais genre. C'est-à-dire, il est, comme disait Emmanuel Bayamaktam, cette histoire de génie polymorphique du roman. C'est-à-dire qu'il peut prendre absolument toutes les formes de langage.
Yves Bichet.
Je sais pas quoi répondre.
Genre du roman, vous qui donnez lieu d'ailleurs au documentaire, à la fiction, à la non-fiction, au dialogue.
Moi, ce que je ressens, c'est la nécessité ou pas, en général, dans la lecture des romans. Et je trouve que quand la nécessité intervient, quand on sent que c'est nécessaire pour l'auteur, c'est nécessaire pour le lecteur. Et là, le genre, la question du genre n'intervient pas vraiment. C'est qu'on est embarqué.
Donc souvent, on sent pas la genre. Nécessité. On est au-delà du genre. Je voudrais qu'on vous entende, Emmanuel Bayamaktam, lire un extrait. Alors, j'ai choisi un extrait du début. C'est un dialogue. Il y a aussi des descriptions, notamment de nature, absolument magnifiques. Mais j'aime bien aussi ce dialogue, puisqu'on parle d'apprentissage, d'initiation. On est en plein dedans.
Donc, c'est un dialogue entre Arkady, le chef spirituel de la communauté, et Farah, qui a 15 ans. Farah, je serai toujours là, ok ? Et on fera comme tu veux. On couchera ensemble si tu as envie qu'on couche ensemble, mais on n'est pas obligé. Je te plais ? Il hausse les épaules et ouvre de grands yeux, comme si ma question était oiseuse, ou comme si la réponse allait de soi. Mais oui, bien sûr. Alors pourquoi tu as dit que j'étais loupée ? Parce que tu as une tête et un corps bizarre. Mais bon, ça peut s'arranger avec le temps. Et même si ça s'arrange pas, je m'en fous complètement. Je te trouve sexy. Bah alors, pourquoi on le fait pas tout de suite ? Je préférais que tu fasses ça avec quelqu'un que tu aimes vraiment, pour commencer. Mais moi, c'est toi que j'aime. Il rit, attrape Matina sa pleine main, tire dessus et la torsade comme s'il s'apprêtait à me faire un chignon. Son regard est désormais dépourvu de tendresse, mais ce que j'y lis me plaît tellement que je m'efforce de mettre dans le mien toute ma force de persuasion. À quoi bon attendre ? Personne ne me fera jamais l'effet qu'il me fait. Je voudrais parler, mais je me méfie de ce que je pourrais bien lui dire et qui ne sera jamais à la hauteur de l'émotion qu'il suscite en moi. Comment fait-on, à 14 ans, pour convaincre l'homme de sa vie de vous faire l'inestimable cadeau d'une défloration en bonne et due forme ? Car il me semble que c'est à peu de choses près ce qu'il vient de me proposer, tout en renvoyant ça aux calendes grecques.
On arrête là au calendrier grec. J'aime, oui. J'aime bien le mot grec, ça tombe bien.
Oui, la 14 enflammons, pas 15.
En matière de roman, vous n'en êtes pas à votre première adolescence difficile, Emmanuel Bayamaktam. Je me souviens de Kimberly, de Sharon aussi. Qu'est-ce qui vous passionne dans cet âge, sachant que vous êtes aussi, vous l'avez dit, gérontophile, en fait. Vous adorez aussi décrire les corps. C'est une de vos phrases.
J'aime
de
tout
vos
le monde,
phrases.
En fait.
Voilà. Non, mais sur l'adolescence, ce lieu de passage, ce lieu d'apprentissage aussi, qu'est-ce qui vous intéresse?
Alors, bizarrement, je ne suis pas du tout passionnée par les adolescents dans la vie. Je les trouve plutôt horripilants et ingrats. Mais oui, effectivement, genre, j'ai souvent des héros, des héroïnes hein, adolescentes, mais pour les raisons dont je parlais tout à l'heure, c'est que c'est vraiment cet âge plastique, malléable, ce moment déterminant, crucial qu'est l'adolescence, c'est assez commode à saisir sur le plan du récit.
Qu'est-ce qu'elle veut, votre Farah? Parce que, bon, là, on a compris dans ce passage qu'elle veut
coucher avec
Arcadie. Mais il y a aussi cette notion, parce que cette Arcadie est une forme de ZAD, hein, en fait, une zone fermée. Donc, il y a la technologie tout autour. Et puis, il y a ce paysage entouré de pas de fortifications. Mais, enfin, on a l'impression d'être dans le cadre quand même d'une forteresse. On a l'impression qu'aussi, c'est votre agent perturbateur, finalement. C'est elle qui va apporter, qui va montrer que cette Arcadie-là se désavoue elle-même, puisqu'il va être question, justement, de migration. Donc, qu'est-ce qu'elle veut, Farah? C'est la rébellion? C'est déjà une révolutionnaire post-68?
Elle a 15 ans. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'elle veut? Ben, elle veut s'amuser, elle veut éprouver, elle veut aimer, elle veut être aimée. Et bien évidemment, elle veut partir. Parce que, voilà, c'est l'âge où on aspire à quitter sa famille, quand bien même cette famille serait une famille élargie. Parce que là, j'ai quitté un peu les romans familiaux dans lesquels je me cantonnais ces derniers temps. On n'est plus dans la famille, on est dans la communauté. Hein. Elle dit souvent que finalement, elle emploie souvent le « nous ». En lieu et place du jeu. Donc c'est sa jeunesse hein, qui menace le familistère, le phalanstère, et effectivement l'apparition de l'Érythréen dans ce paradis terrestre qui va finalement en montrer les limites. Et j'ai conçu ce petit microcosme finalement de façon presque comme une... Oui, comme renvoyant au macrocosme finalement. Ce qui se passe au sein de ma communauté, ce refus d'accueillir et de s'ouvrir, c'est ce qui se passe plus globalement en France, en Europe.
Donc l'Arcadie comme microcosme. Juste une petite question aussi sur la légèreté. Je parlais de crudité tout à l'heure, que j'aime beaucoup. Hein, d'ailleurs, dans la façon notamment de décrire, on parlait du corps, mais de décrire le sexe, en fait, la sexualité. Il y en a beaucoup dans ce livre. Ce parti pris d'être légère, leste, parfois même grivoise, dirait-on, comme on disait il y a 20 ans, on disait grivois, c'est grivois. Ce parti pris-là est extrêmement intéressant, en fait. Voilà, de ne pas mettre de gravité, en fait.
Oui, il y en a quand même. Alors, les scènes de sexe, je trouve que c'est une très bonne pierre de touche pour les auteurs, parce qu'en général, c'est raté. Enfin, dans la plupart des livres, c'est vraiment...
Ce qu'il y a plus dur à écrire.
Voilà, on a envie de s'enfuir ou de pleurer. Et donc, j'essaie, livre après livre, d'en écrire qui, finalement, ne soit pas mièvre, ne soit pas attendu. J'essaie un peu de les dégoupiller en y insérant du comique, mais voilà, je ne prétends pas que les miennes soient forcément réussies. Mais en tout cas, j'essaie de faire en sorte qu'elles soient singulières et je m'astreins presque à en écrire parce que précisément c'est difficile, donc intéressant.
Vous êtes d'accord avec ça, Maëlys de Kerangal? Les scènes de sexe sont parmi les plus dures à écrire pour un écrivain?
Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Emmanuel Bayamaktam. Ouais. Ouais, je trouve que c'est assez impressionnant d'ailleurs à écrire. Et c'est vrai que je pense également que c'est une bonne pierre de touche. Pour ma part, c'est toujours un peu furtif, assez rapide, un peu il y a des difficultés. C'est plutôt des espèces d'entrechoquements. Et à la fin de ce livre, c'est une forme d'invention, c'est-à-dire que pour le coup, ils font l'amour comme des inventeurs. Ça, c'était pas mal.
Réinventer l'amour, ça c'est beau, Yves Bichet. Hein. C'est une bonne maxime pour romancier.
Pas mal.
Parlait beaucoup d'amour hein, dans ce roman.
Dégoupille très bien.
Dégoupille très bien. Oui, c'est
à fond la caisse.
On va parler justement, on va continuer avec vous, Maëlys de Kerangal, et ce monde que vous nous mettez à portée de main. D'abord, on écoute votre choix musical. Alors, vous me corrigez, hein, Bibo no Aozora, donc c'est un morceau de Ryuichi Sakamoto. Voilà, j'ai bien prononcé.
Ouais, je crois.
Alors, on écoute et on en parle. Ruichi Sakamoto, Bibo no Aozora, c'est le choix musical de Maïlys de Kerangal qui publie Un monde à portée de main chez Vertical. Pourquoi ce choix musical, Maïlys?
Je trouve que c'est un morceau qui est beau, mais qui est surtout assez planant, en fait, avec quelque chose d'assez lancinant et qui se prête à des formes de rêverie.
Ouais. Donc c'est Furio hein, qui nous a fait découvrir.
Je crois que c'est Furio et ouais. Donc Bowie qui est voilà. Quand même que je connais bien.
Et il est question d'ailleurs, enfin Bowie, on parle toujours de son regard, de la couleur de ses yeux, enfin les yeux verrons. Il y a quelque chose autour des yeux dans ce nouveau livre aussi, puisque votre héroïne Paula Karst, un léger strabisme d'ailleurs, alors que l'œil doit être très précis puisqu'elle est, elle copie la réalité, c'est une as du trompe-l'œil.
Précisément, c'est une copiste avec un strabisme divergent, c'est-à-dire que son angle de vision est élargi, il se prononce plus quand tombe la nuit. C'est-à-dire que quand l'œil fatigue, tout d'un coup, ça cloche. Et puis, elle a ses yeux verrons. Et c'est vrai que le regard est quand même assez au centre du livre, au sens où elle apprend à voir. Enfin, elle reçoit dans cette école du trompe-l'œil une forme d'éducation du regard. Et donc, ses yeux sont hyper sollicités. Donc, il y a, dans cette forme d'apprentissage qu'elle sait, enfin, dans cette formation, moi, je préfère le terme de roman de formation parce que je trouve que d'abord, il y a l'idée de la forme qui surgit. Et puis, pour ce livre, la formation de Paula, elle fait écho au monde en formation qui est tout le temps présent, notamment dans les carrières de pierre, dans les carrières de marbre, les fossiles, etc. Que tout se forme autour d'elle à mesure qu'elle se forme. Et puis, cette forme, c'est aussi, pour moi, l'idée de la forme de l'écriture, la forme du langage. Donc, j'aime bien ça. Et c'est vrai qu'après, elle a durant cette formation qu'elle reçoit dans cette école.
Puis oui, parce qu'il y a une école. Formation scolaire le mot convient bien.
Et même de copiste. Enfin, donc, on est aussi dans un univers avec. Il y a des règles, enfin il y a des lois, et elle a une espèce de marquage au corps progressif, c'est-à-dire les cernes, enfin qui viennent toucher les yeux, la sensation de la pupille est rigide, etc. Donc ses yeux sont hyper sollicités, elle passe ses journées à écarquiller les yeux devant des panneaux de marbre, de bois, des cailles de tortue ou de toute autre chose encore.
Alors précisément, je le disais à l'orée de cette émission, mais Un monde à portée de main, donc c'est un récit, voilà, c'est un roman de formation, récit initiatique aussi, d'une initiation à une certaine technique, et plusieurs techniques d'ailleurs, d'une jeune femme qui s'appelle Paula Karst. D'ailleurs, Karst, vous parliez de géologie, on est les reliefs karstiques.
Ouais, mais ça c'est... pour le coup, c'est vrai que les noms dans les livres, enfin moi j'aime assez ça, je pense que c'est un plaisir quand on écrit des livres de trouver des noms.
Les noms donnent Karst, produisent de la fiction.
Exactement, déjà c'est des premières capsules d'imaginaire, c'est des noms qui permettent de faire des connexions. Et le karst, c'est quoi? C'est ces mondes voilà, où il y a des ruissellements intérieurs, ça crée des cavités, il y a des chambres ornées, des galeries, des rivières à l'intérieur d'une colline, comme celle de Lascaux, mais comme Paula.
Des chambres ornées, ça serait une belle définition pour un roman aussi, une chambre ornée, non? Alors, donc Paula Karst, elle apprend en fait la peinture décorative, donc en fait toutes ces techniques qu'on voit dans le cinéma, dans le théâtre, d'imitation en fait des plus belles matières qui soient, mais qu'on ne peut pas avoir en réel, donc on les fait reproduire par, non pas des artistes, parce qu'elle ne se définit pas comme artiste, en fait.
Précisément, voilà. Précisément, copiste. Paula n'est pas... C'est pas du tout un livre qui va parler de l'art avec un grand A. Au contraire, moi, ça m'a plu de choisir pour elle, enfin, de créer une figure de copiste, c'est-à-dire un art mineur, possiblement dépréciatif, l'idée de copier, de recopier, et d'en faire plutôt un espèce de véhicule. C'est-à-dire, ce que j'aime assez dans la copie, c'est que il y a de l'incorporation, c'est-à-dire qu'il faut que le corps du copiste ait le lieu d'un transit. Enfin, ce qu'il copie transite par sa main, justement, et puis par son corps, il y a une mémoire du corps, etc. Et en fait, elle est comme un véhicule, d'une certaine manière. Et ça, c'est pas mal.
D'une transmission aussi, puisque si on revient aux moines, c'est aussi qui ont permis toute la transmission.
C'est exactement ça. Les moines étaient eux-mêmes des véhicules. Alors évidemment, il y a des fautes, on change, ça se modifie. Et ce qui me plaisait dans ce roman, dans cette espèce de trajectoire de fille, c'est qu'évidemment elle se forme, mais elle se modifie. C'est-à-dire que sa jeunesse et son... C'est-à-dire que ce qui est pas mal, c'est d'être comme une débutante. C'est-à-dire elle est sur un seuil au début du livre. Elle est assez, c'est une fille assez, je disais, un peu lambda.
Pas formée, pas précisément, on pourrait dire ça. Ouais.
Pas non plus très douée, etc. Et finalement, elle s'engage dans cette formation avec tout d'un coup une espèce de, comme si elle était électrifiée, hein, comme si elle avait un espèce de choc qui la traversait, et elle est happée. Mais elle se transforme. C'est-à-dire, elle se transforme. Il y a une métamorphose. Elle habite peu à peu son corps, elle habite peu à peu le monde. Enfin, tout le livre voudrait dire ça.
On va vous écouter, Maëlys de Kéranga, lire un extrait. Alors, j'ai choisi précisément, on ne parle pas d'artefact, mais on est dans le réel, puisqu'il s'agit de la vraie invention découverte de la grotte de Lascaux, donc par ses enfants. L'histoire est connue.
Par ces jeunes gens, qu'en fait, la légende fait de des enfants, parce qu'il y a quelque chose de peut-être de plus légendaire et de mythologique à en faire des enfants. Mais bon, ils avaient quoi, entre 14 et 18 ans?
Oui, ils sont des adolescents. Voilà. On vous écoute.
Ils partent en reconnaissance. L'émerveillement leur tient lieu de méthode et Paula songe qu'ils vont vite, qu'ils se dispersent, s'interpellent, lancés dans une surenchère exclamative qui semble devoir durer toujours. Là, le premier animal, étrange, est un cheval aux deux longues cornes noires et fines qui d'emblée désigne un mouvement, donne une direction. Là, des taureaux, de petits chevaux noirs et aussi quatre cerfs au galop, un bouquetin. Là, un cerf noir, puis un ours au flanc d'un taureau. Des têtes surgies entre deux encolures, des croupes décalées, des crinières qui se soulèvent, le tout chaud, mobile, vivant, sonore. La beauté n'a pas de point, la beauté n'a pas de fin. Et peu à peu, déjetés hors d'eux-mêmes, ils vont accroître l'espace de la caverne. Georges découvre un passage latéral sur la droite dans la première salle et avertit les autres. « Ça continue !» S'introduit dans le couloir qui court sur une quinzaine de mètres avant de déboucher sur une autre galerie, haute et si pentue qu'ils doivent grimper sur les corniches pour admirer les peintures. Des chevaux encore, un bison fléché, une grande vache, noire et pleine, des bisons adossés, quatre têtes de cerf, mais peut-être est-ce le même qui se déplace. Ça continue encore. Un autre conduit apparaît sur la droite. L'éclairage oblique révèle un plafond en coupole où s'entremêlent des gravures d'animaux, un ensemble d'une si grande densité et d'une si grande agitation qu'il en est difficilement déchiffrable. La beauté continue. « Tu es là, Jonas ?» Paula demande.
Merci, Maëlys de Kerangal. Donc, « Un monde à portée de main », c'est chez Vertical. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'évidemment, Lascaux sera aussi l'artefact suprême, puisque Lascaux, on le disait tout à l'heure, a été copié. Lascaux 1, 2, enfin, Lascaux 1 étant l'original, 2, 3, et on verra. Est-ce que le fait de choisir ce thème revenait à dire en creux que il n'y a presque que la technique qui vaille et que ça pourrait, au fond, s'appliquer à l'écriture trompe-l'œil comme un autre?
Pas forcément, parce que de fait, quand même, le livre s'achève vraiment à l'abri du poisson, qui est une vraie cavité avec un espèce de bas-relief absolument extraordinaire. Mais non, je m'interrogeais pas mal sur le fait que voilà, ces œuvres qui, bon, là, par exemple Lascaux, ces espaces qui disparaissent de la surface visible du monde, qui se retirent, donnent lieu à des facsimilés. Et c'est vrai que je me demandais pas mal pendant que j'écrivais ce livre un peu si justement c'est un petit peu ce que disait Yves Bichet tout à l'heure, ces formes de faux ne sont pas les ultimes lieux pour être initié à ces espaces, hein. Est-ce que c'est pas des accès possibles? Alors évidemment l'émotion est pas la même, mais est-ce qu'on va pas aussi chercher là des points d'appui pour être initié? Et de fait pour moi, le terme exact, ça serait vraiment ce terme d'initiation.
Mais est-ce que l'écriture vous la vivez comme un trompe-l'œil, au fond, avec certains mots, même quand ils sont extrêmement recherchés, vous en parliez tout à l'heure, parce que vous insérez un certain nombre de termes, des notions de couleurs, par exemple, le jaune de cadmium orange, le terme chiqueté, au fond, avec cette qui est une technique, en fait, de mettre ces mots, disons, étrangers à leur propre langue, à nouveau dans leur langue originelle. Est-ce que pendant que vous écriviez ce livre, vous disiez, mais je fais du trompe-l'œil aussi, au fond, avec mes mots, je donne à voir des paysages, des couleurs.
Oui, en fait, c'est-à-dire que ce qui est dit dans le livre, c'est que voir, ça n'est jamais que regarder, et que voir, c'est précisément imaginer, c'est-à-dire c'est mettre en réseau, mettre en connexion, les liens se créent entre les choses, et c'est rechercher une initiation. Et c'est vrai que moi, c'est aussi ce que je demande au roman, c'est être initié.
Vous, comme l'auteur, doit être initié avant le lecteur.
Le lecteur, pour moi, peut-être qu'il l'est, mais en tout cas, moi, ce que je demande au roman, ce sont des formes d'initiation. C'est-à-dire que moi, je m'initie à ces langues et à ces mots que je connais pas avant de commencer le livre. Il s'agit pas de dire, oh là là, c'est un mot bien, je vais le mettre dans mon texte. C'est plutôt que m'avançant vers ces mondes, notamment celui de la peinture, et quand même toujours dans une, avec toujours dans une position qui est pour moi une position très enviable de pauvreté, c'est-à-dire d'être la débutante. Voilà, je recueille immédiatement les langues qui baignent ces mondes.
C'est-à-dire que l'écriture d'un roman suppose une initiation de la part de l'écrivain lui-même.
Oui, enfin pour moi je le ressens beaucoup, et y compris d'ailleurs il y a des formes, c'est assez liturgique aussi tout ça. Je le voyais dans mes autres livres aussi, le pont, le cœur, etc. Et là l'art du trompe-l'œil, c'est difficile. Il y a l'acquisition des gestes, il y a l'acquisition aussi de certaines formes de savoir, et puis surtout la manière dont ça débride des choses, et c'est-à-dire dont on va s'émanciper. C'est-à-dire qu'il faut évidemment qu'il y ait un moment donné une émancipation du regard, c'est-à-dire c'est toujours aller au-delà.
Avec une observation.
Pour moi, ça, c'est de l'initiation.
Pour réparer les vivants, vous aviez assisté, je crois, à une réimplantation.
Ouais.
Vous étiez, voilà, votre regard aussi a dû se confronter au réel.
Ouais.
L'importance de la documentation est énorme pour ce livre. Vous avez suivi vous-même
L'importance de la documentation, elle n'est jamais énorme. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même la fiction, mais je fonctionne avec des fixeurs, c'est-à-dire avec des gens de l'intérieur qui peuvent me guider, qui peuvent m'apprendre, qui peuvent me former d'une certaine manière, et ça, c'est pas mal. Et par ailleurs, j'aime assez la vie du livre, c'est-à-dire la vie quand j'écris le livre, la vie qui est là. Juste précisément, on n'est pas que devant. Enfin, moi, je suis pas que en train d'écrire devant mon ordinateur. Il y a ces mouvements, et j'allais dire cette opération que j'ai vue pour réparer les vivants, elle a été capitale, pas tant pour le livre que pour ma vie. Il y avait aussi des occasions. Le livre, c'est aussi l'occasion à certaines formes d'initiation.
Ouais. Yves Bichet, l'initiation, vous l'aviez reçue, puisque vous consacrez ce livre à mai 68. On en a parlé tout à l'heure, à un événement particulier de mai 68. Et puis la queue de comète aussi de ce mouvement. Mais c'est une initiation que vous aviez déjà, ou vous avez eu besoin d'y replonger pour écrire ces trois enfants du tumulte?
Je l'avais parce que j'étais adolescent à cette époque, donc je l'avais un petit peu, mais voilà, que devient-on après des périodes d'utopie pareille, enfin, ou d'allégresse? On a un peu oublié la joie de cette période-là, vraiment. On resserre sur des enjeux ultérieurs, mais c'était un moment. Alors ça, je l'ai connu effectivement, donc j'atteste de ça, plus ou moins, je témoigne de ça. Mais ce qui m'intéresse dans ce livre, c'est le destin des jeux, ce qu'on fait après.
Oui, c'est ça.
Ce qui advient après ça.
On en parle. Trois enfants du tumulte. C'est au Mercure de France. On écoute votre choix musical. Vous avez choisi The Sound of Silence de Simon & Garfunkel.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night. Touch the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, no one dare. after the sound of silence.
Ça y est, ce Sound of Silence n'est pas du tout le silence dans le studio du Temps des Écrivains. Simon and Garfunkel, c'est le choix d'Yves Bichet. Il est avec Maïlys de Kerangal et avec Emmanuel Bayamakta. Mais voilà, on était très émus en fait en écoutant ça. Pourquoi ça... Vous nous disiez d'ailleurs, on en parlait, ce qui est bien, la musique est super, mais c'est ce que ça dit. Qu'est-ce que ça dit, cette chanson?
Et oui, ça dit une sorte d'impossibilité de parler. C'est une déambulation dans la ville, de parler au peuple, de parler aux gens. C'est très étrange parce qu'on n'écoute pas trop les paroles de cette chanson, on l'a tellement dans la tête. Or, je l'ai choisie parce que justement ça témoigne aussi de ce qui s'est passé avec mes personnages. C'est-à-dire que la parole était tellement généreuse dans les débuts de 68, et tellement ouverte, et tellement allègre, et tellement joyeuse. Et puis d'un seul coup, voilà, ça devient juste quelque chose à transporter et on est devant l'impossibilité ou la difficulté de communiquer avec l'autre.
Oui, trois enfants du tumulte, donc ça, on retrouve les personnages de Indocile. Indocile se passait pendant la guerre d'Algérie. Là, on est donc en mai 68, en fait, exactement dans la nuit du 24 au 25 mai 68. C'est le théâtre, cette nuit du premier mort de mai 68. Et vous revenez sur cet épisode avec la charge du camion fatal. Alors, on ne sait pas si c'est le camion ou si c'était un arrêt cardiaque. En fait, vous revenez aussi sur cette enquête parce qu'il y a eu une enquête qui, évidemment, politiquement a été récupérée. Évidemment, le pouvoir voulait que ça soit un attentat contre ce commissaire Lacroix. On retrouve dans ce livre Théo, donc l'insoumis d'Indocile, et puis Mila, foudroyée par un éclair pendant son enfance, qui est restée aussi rebelle que dans Indocile, qui est serveuse au bar du Soleil et qui s'engage, ils sortent de prison tous les deux, ça on l'apprenait dans Indocile, et qui s'engage dans la révolte de mai avec l'espoir d'un monde nouveau. Vous parlez d'allégresse, c'est aussi Yves Bichet, un livre qui nous montre finalement l'envers aussi de mai 68, c'est-à-dire au fond tous ces gens qui ont dépéri, qui se sont même parfois fracassés après 68. S'il y a un apprentissage dans votre livre que le lecteur fait, c'est ça, c'est qu'il y a eu aussi des soldats perdus en fait de mai 68, et on n'en parle jamais.
Oui, c'est la beauté des bousillés un peu, c'est effectivement... J'avais envie de parler de tous ces gens qui se sont balancés là-dedans et puis qu'on a laissés sur le carreau et qui, dont certains, ont vraiment mal fini. Il y a un côté tragique dans le destin d'un certain nombre de ces personnages parce que c'était l'utopie. Et derrière l'utopie, quand tout s'écroule, on est dans une sorte d'errance. Si on n'a pas les moyens intellectuels ou culturels ou familiaux pour rebondir. Donc c'est vrai que j'ai connu ces gens-là. Il y en a un certain nombre qui ont très très mal fini.
Vers la radicalisation. Théo, dans le livre, se met à faire passer. C'est un passeur de révolutionnaires très très armés et qui veulent faire le coup de feu, vraiment.
Oui, c'est ça. Il y a une sorte de désespoir d'une partie de ces gens, surtout les moins bien armés, de désespérance qui a abouti à la radicalisation. C'est un phénomène qu'on observe maintenant ailleurs.
Mais oui, sans comparer,
mais la radicalisation, c'est toujours la même chose.
Mais Yves Bichet, vous reprenez vos personnages d'Indocile. Pourquoi ils n'avaient pas achevé justement leur initiation, leur apprentissage?
Oui. C'est une question difficile. Oui, je vais y répondre. Disons que c'est un projet qui veut montrer que pour sortir peut-être de la radicalisation ou de ses excès, il n'y a que la fiction. C'est mon projet.
C'est-à-dire?
Alors, il y a une partie de témoignage dans l'histoire. J'ai effectivement fait passer des gens. J'ai été contraint de faire passer des gens, des tolards en cavale, parce que je connaissais bien la montagne et je savais les endroits. Donc, je pense pas que ma vie soit très intéressante.
C'est vous qui en parlez.
Oui, mais parce que vous m'avez coincé avec une question qui met en scène mon projet dans sa totalité. Donc voilà, j'avais envie en même temps de sortir des petits événements de mon existence parce qu'il me paraissait mériter d'être mentionné. Parce que on peut aller sans aucune conscience politique, avec une sorte de bienveillance naturelle ou d'innocence, on peut sombrer on peut plonger vers la radicalisation. Et je pense que c'est ce qui arrive. J'ai beaucoup travaillé avec, dans l'Est lyonnais, à Vaux-en-Velin, avec des populations qui sont très sensibles à ça, ou qui sont là-dedans.
Mais c'est intéressant ce que vous disiez, la fiction par rapport justement au réel ou au témoignage et à la radicalisation. On ne peut s'en sortir que par la fiction. Qui doit s'en sortir par la fiction?
Moi, je m'en suis sorti comme ça.
Voilà. C'est ça le projet, en fait. C'est ça votre projet.
Oui.
Vous sortir vous-même de la radicalisation par la fiction, en devenant écrivain.
C'est un biais pour échapper à l'impasse. Mais la lecture aussi, hein. C'est pas forcément d'écrire des fictions, c'est de se plonger dans les fictions.
Qu'est-ce qui a trahi les espérances de vos personnages? Il y a un épisode qui se passe rue des os rangés. J'aime ce nom de rue, les os rangés, comme s'il y avait les gens rangés et puis
ils étaient rangés.
Les rebelles à côté, voilà.
On rangeait les corps.
C'est ça.
On rangeait les os des gens au Moyen-Âge qui étaient morts des pestilences.
Mais il y a ce constat qui est terrible pour cette génération et justement cet apprentissage ou cette initiation. Un des personnages dit « Notre révolution a avorté ». Et il n'en finit plus de nous hanter. Et ce qui est très troublant, c'est que vous mettez aussi des personnages réels dans ce livre, notamment Claire Ozias, en fait, qui vit avec un certain nombre de marginaux, d'étudiants qui flirtent avec la délinquance dans la maison que Mila, votre héroïne, a hérité de sa grand-mère. Et c'est un hommage à ce qu'on appelait les trimards. Mmh. De mai 68, ces ouvriers totalement marginalisés.
Oui, qui ont plongé bille en tête là-dedans, qui ont cru et qui se sont retrouvés dépossédés de quasiment tout. Alors le livre, effectivement, est mêlé de faits véridiques, contrôlables, de choses qu'on n'a pas tout dit, hein, sur mai 68, mais c'est un livre sur l'après 68, sur ce qu'il advient des gens derrière, et c'est mêlé de fiction. Et j'avais, je pense, que comme j'essayais de le dire tout à l'heure, que c'est par ce biais-là, par la fiction, qu'on crédibilise vraiment les événements et qu'on peut intéresser, parce que les grands mouvements d'utopie vont revenir. Moi, je pense, je crois à ça. Je suis un optimiste, en fait.
Très bien. Pourquoi vous les appelez les enfants? Ce sont les enfants.
Les trois enfants du tumulte,
ouais, parce qu'ils enfants.
Ils sont nés
ils de sortent de prison, ils ont déjà un lourd passé, ils sont encore enfants.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que Théo et Mila ont autour de la trentaine, ils travaillent, ils ne sont pas des étudiants. Il n'y a que
Delphine qui est étudiante. Lui est étudiante. Photographe, hein, pigiste.
Oui, il est pigiste dans un... Voilà.
Mais l'enfant, sur ce terme d'enfant. Non, c'est drôle parce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec le silence et l'impossibilité à parler. Infant, oui. En latin, c'est celui qui ne parle pas.
Ah. Oui, alors ça, je savais pas, mais il y a une sorte de oui, ils ont une innocence. Ouais. Ils croient toujours en quelque chose. C'est pas parce qu'ils vont vers des impasses. Enfin, en tout cas, Mila, vers la radicalisation. Delphine, elle arrête avec le corps. C'est assez étrange. Parce qu'elle est médecin. Et elle cesse d'être dans le corps, dans l'étreinte. Elle arrête avec l'étreinte.
Est-ce que, avec ce livre aussi, vous vouliez, finalement, je vais pas dire, mettre un peu de noir sur le rouge des hommages, et d'ailleurs du rose parfois, des hommages à mai 68, vous en aviez assez de ces hommages qui étaient parfois à côté de la réalité, totalement?
Ah oui, absolument. Oui, d'abord, c'est gonflant. Les hommages, enfin les anniversaires. Moi, je suis pas du tout anniversaire. Et puis, je pense qu'en oui, il y a beaucoup de choses qui étaient en dehors, enfin qui étaient en dehors de la réalité. Les Mao ont été épouvantables à cette période-là. Ils ont été extrêmement durs. Moi, je me suis fait taper dessus. Alors qu'on était juste, oui, dans une sorte de joie. C'est idiot de répéter les mêmes mots.
Mais c'est témoigner, en fait. On comprend que par cette fiction-là, il s'agit de témoigner justement d'un certain apprentissage qui n'était pas celui
qu'on montre,
oui,
voilà. qu'on répète, ouais. Qu'on ressasse. Ouais.
Je voudrais, Yves Bichet, pour terminer, que vous nous lisiez un extrait. Justement, j'ai choisi ce passage qui ouvre le livre et qui est le passage avec le fameux camion qui va entraîner la mort de ce commissaire.
Le vacarme reprend. Nous ne sourions plus. Le camion Joannin surgit dans la rue Grenette, suivi par une meute d'enragés dont nous faisons partie à la seconde. Tu te précipites derrière les trimardeurs et nous filons vers le pont Lafayette où les affrontements se poursuivent. Les étudiants des Beaux-Arts acclament l'arrivée de notre engin, démontent leur barrage en une seconde, puis nous emboîtent le pas avec des hurlements de joie. Le camion a perdu une partie de son chargement en escaladant les remblais. Il hésite à s'engager sur le pont, tousse, pétarade, ralentit un instant en apercevant les rangées de gardes mobiles loin devant, certains en train d'enfiler leurs casques. Les forces de l'ordre bloquent le pont et nous empêchent de traverser. Alors oui, on continue, on fonce, on court comme des damnés. Tu t'accroches à la portière du camion et moi, l'instant d'après, j'agrippe la ridelle du plateau arrière. La clameur enfle, le pont est bien dans l'axe, les flics sont en face, on y va. On ne réfléchit plus. Je balance l'instamatique dans mon sac, car il va falloir s'éjecter rapidement, sauter en marche. Tu te rétablis sur le marchepied, ton bras gauche flotte un instant au-dessus du fleuve, tu bascules à plein ventre sur la banquette à côté de Raton et de Munch. Aussitôt, dans la cabine, tu te retournes, frappes au hublot communiquant vers l'arrière et réclames quelque chose de lourd, un parpaing, une caillasse. Le camion fonce vers le barrage. Daniel fouille dans les gravats et te tend un pavé par le fenestron. Tu plonges sous le tableau de bord. Je ne sais pas si c'est toi qui enfonces la pédale d'accélérateur, puis la bloque avec la pierre, mais le moteur s'emballe. Tu es si belle, si souriante. Tu te relèves et, d'un coup, la révolte change de main. Elle est là, notre erreur, au milieu du pont, juste en face, devant la rangée de gardes mobiles. Elle est là, notre première victime. Il est là, notre mort, blême, pétrifié par la peur. Il hésite, il est épouvanté, nous aussi. Nous nous éjectons l'un après l'autre. Raton lâche son volant et saute au tout dernier moment. Le camion rugit, fait une embardée et fonce droit devant.
Merci. Yves Bichet, Trois enfants du tumulte. Et j'ajoute aussi des très très belles scènes sur la... violente aussi, hein, sur la prison, notamment Mila, ah oui, en prison, voilà, qui nous ramène au grand roman d'apprentissage, je trouve, du 19e, voilà. Je pensais à Monte Cristo, moi, en voyant Mila. Merci beaucoup, Yves Bichet, donc, pour un autre regard par la fiction sur mai 68. Merci, Maëlys de Kerangal. Voilà, Un monde à portée de main, c'est aux éditions Verticales. Et merci, Emmanuel Bayamaktam, Arcadie, c'est aux éditions POL. Merci à vous. Merci. Voilà, Le Temps des écrivains, c'est Anne-Catherine Lochard, Jean-Christophe Francis, Delphine Baudet à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter pendant 1000 jours, ou je crois même que c'est infini maintenant, sur franceculture.fr. 7h avec, pour toujours, avec Maëlys de Kerangal, Emmanuel Bayamaktam et Yves Bichet et Trois enfants du tumulte, c'est au Mercure de France. Je rappelle que le livre d'Yves Bichet et le livre de Maëlys de Kerangal font partie de la sélection des 10 romans de la rentrée de France Culture et de l'Obs.